Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous.
Ah, bonjour et à toutes et à tous et bienvenue dans notre dans votre émission Tonnerre de Brecht. Salut Martin.
Salut.
La nuit tombe tout juste, ça sent le retour des beaux jours et en cette journée de vacances ensoleillée, nous sommes quand même présents sur les ondes.
Aujourd'hui, le programme est plutôt chill, quoique pas loin d'être inintéressant.
Quoique loin d'être inintéressant. Oui, et en parlant de la nuit qui tombait, on part justement à la rencontre d'un spectacle auquel vous avez pu assister durant l'édition passée des Tombées de la Nuit. Il s'agit du spectacle Métagore Majeur présenté cet été par la compagnie Canicule.
Mais avant ça, je suis parti à la rencontre d'Amélie Venis, l'interprète du spectacle Vu à écrire au féminin et de son metteur en scène Étienne Manceau. On vous en dit plus juste après les actus.
Oui, les actus, puisqu'après avoir fait le plein d'émissions spéciales, nous sommes de retour à la maison, à la radio. Et cette semaine, à retrouver à Rennes le spectacle Fiction Friction, mis en scène par Fia Ménard et avec la vingtaine d'élèves du TNB, les élèves sortants. Ce spectacle de sortie relève de la performance et respire le dynamisme et la jeunesse. Un moment où vous pourrez vous laisser aller, nous on a bien aimé, vous nous direz ce que vous en avez pensé et c'est jusqu'à samedi au TNB.
Encore au TNB, vous pourrez retrouver la création Fraternité, conte fantastique. Cette fiction futuriste postule l'existence d'un monde meurtri où la fraternité serait la valeur cardinale. Avec Fraternité, conte fantastique, Caroline Guilla Nguyen fait apparaître un univers amputé d'une part de lui-même. Dans un futur proche, une partie de la population mondiale disparaît subitement de la surface de la Terre. C'est à retrouver à partir de mercredi prochain et ce pour les deux prochaines semaines.
En attendant l'été et le célèbre festival de théâtre amateur de Kerry-Irvi, l'association La Fontaine aux Chevaux vous propose le festival Hiver en scène, en partenariat avec la ville de Lanester. Ce week-end, vous pourrez assister à trois spectacles. Le vendredi soir à 20h30, Sacco et Vanzetti dans une mise en scène collective de la compagnie Le Cercle Plantelet. Le samedi, à 20h30, vous aurez l'occasion de voir 16 mètres carrés, d'après Théophile Gauthier, par la compagnie Tintinmar. Et enfin, le dimanche, à 16h30, Hôtel des Deux Bondes d'Éric Emmanuel Schmitt vous sera présenté par le théâtre En Liberté. Tout ça est à voir ce week-end, à l'occasion de Hiver en scène à Lanester.
Un programme bien chargé pour les semaines à venir, mais avant ça, on va retrouver le spectacle Vu, qui sera, lui, joué vendredi 18, donc demain, au Théâtre de Poche Dédé Bazouge. On vous en parlera bien plus, mais il vaut mieux laisser la parole à Amélie Venis et Étienne Manceau.
Bonjour Amélie Venis, bonjour Étienne Manceau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans Tonnerre de Brecht. On se rencontre aujourd'hui pour parler ensemble de votre spectacle Vu, qui se jouera le 18 février prochain au Théâtre de Poche à Dédé Bazouge. C'est une recréation, puisque c'est toi, Étienne, qui est à l'origine de Vu il y a 10 ans. Et il sera joué pour la toute première fois par une nouvelle interprète, toi, Amélie. Pourquoi cette volonté de recréation avec une nouvelle interprète, Étienne ?
Moi, j'avais envie de transposer un peu le caractère du personnage au féminin. Sans trop en dire, parce que c'est bien que les spectateurs et spectatrices arrivent un peu sans trop d'a priori, mais le personnage qui est incarné, c'est un personnage qui est très maniaque et puis qui est assez acariâtre. Donc, il a fait ses preuves au masculin pendant une dizaine d'années de tournée. Et puis moi, j'avais vraiment envie de continuer à faire vivre le spectacle au féminin, avec de voir si ça fonctionnait d'avoir un personnage aussi imbuvable au féminin. Je voulais voir si ça valait le coup d'explorer cette direction-là.
Et toi, Amélie, comment tu as intégré cette proposition artistique ?
Bah déjà, pour moi, ça a été une super proposition, un très très beau cadeau que me faisait Étienne en me faisant cette proposition. Et en réfléchissant, c'est vrai que... Alors, je pense que ce côté imbuvable peut très bien correspondre au féminin, c'est sûr. C'est vrai que je pense qu'il y aura d'autres lectures. Enfin, même moi, en le travaillant, je me dis que il y a des choses que je vois qu'Étienne a fait, parce que j'ai vu beaucoup de fois ce spectacle, et moi en le faisant, je sens bien que le côté féminin amène autre chose, je sens autre chose, et je suis très curieuse de voir avec les spectateurs ce que ça va pouvoir, quelle image qui est de toute façon différente va être retenue et comment ça va être interprété.
Et vous êtes tous les deux formés au cirque, qui est l'art par excellence de la performance physique, je trouve, personnellement. En quoi Vue est un spectacle de performance dérisoire ?
C'est ça toute la force de ce spectacle, c'est que c'est un peu antinomique avec le cirque, effectivement, c'est que tout coûte au personnage, ce sont des vraies performances, mais vraiment avec un minimum d'énergie déployée.
Le spectacle Vue, il a vraiment été réduit au strict minimum en termes de physicalité. L'engagement physique, il est vraiment réduit au minimum. Et là où ça va être plus performatif, c'est dans la capacité à tenir le public avec vraiment des choses très... très petite et très fine. L'échelle, elle est très réduite. Donc, moi, j'aime bien le mot performance et j'adore le mot dérisoire. Et donc, je trouvais que c'était un bel intitulé pour ce projet qui est finalement pas du tout performatif physiquement, mais plus mentalement. La gestuelle, elle a été réduite à vraiment au strict minimum. Pour moi, c'est peu d'actions, mais toutes les actions sont très précises. Et donc, moi, je parle de partition parce que pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la partition de musique classique où il y a des indications qui sont écrites sur la partition. Donc, voilà, il y a un objet qui est posé à cet endroit-là. Si on n'y retouche pas pendant 10 minutes, même sans regarder, on sait 10 minutes plus tard qu'on peut tendre la main et qu'on va avoir l'objet précisément à l'endroit où on l'a posé précédemment. Donc, ouais, c'est de l'ordre de la partition parce que c'est très précis, très millimétré et que d'une fois sur l'autre, les choses sont toujours, toujours, toujours à la même place. Ça illustre encore une fois le côté maniaque et obsessionnel du personnage.
Et Amélie, en tant qu'interprète, comment on aborde ce genre de partition ?
Déjà, c'est drôle parce que c'est vrai que c'est pas la... J'ai déjà fait des reprises de rôle dans des spectacles ou des remplacements, mais ce spectacle-là, vraiment particulièrement, je rejoins complètement Étienne, c'est vraiment il y a une partition, ça c'est clair. Et en commençant à travailler dessus, Étienne au début m'avait donné des vidéos pour que de chez moi aussi je puisse me regarder chaque geste précis. Et je me suis rendu compte qu'en toutes les annotations que j'ai faites dans un cahier et la manière aussi dont j'ai découpé les différentes parties, ça, c'est vraiment une vue d'ensemble, ça confirme vraiment que c'est vraiment une partition, effectivement. Et c'est vraiment, j'aime bien aborder ce spectacle comme une pièce. Et je reprends des parties vraiment très précises, comme on travaillerait vraiment une pièce musicale où il y a des petits moments où il y a des montées plus difficiles, donc on le refait. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que je l'aborde, en fait, comme une pièce musicale finalement.
Il y a le fait que vous intégriez le clown dans votre travail depuis des années, Amélie, a-t-il eu un impact sur la recréation du spectacle ?
Oui, je pense qu'il y a vraiment un rapport au public qui est indirectement vraiment lié au clown, de cette manière. Alors, on n'est pas du tout dans la démonstration, on n'attend pas la réaction du public, mais c'est un spectacle qui nécessite une connexion absolue avec l'audience. Et ça, c'est vraiment très, très proche du clown. On ne peut pas être à côté, on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Il faut vraiment... C'est ce qui est aussi très, très pointu dans Vue, je trouve, et très intéressant. C'est cette connexion totale avec les gens et l'exigence que ça demande à ce niveau-là.
Est-ce que pendant les répétitions, Mademoiselle Cerise, votre clown vous surprenait de temps en temps à arriver ?
Non, le point commun qu'il y aurait, c'est peut-être que les deux personnages sont muets. Donc voilà, ce serait plutôt ça, cette manière de toute façon exprimer avec le corps ou les actes, mais on est vraiment dans le muet. Mais non, c'est quand même pas... C'est tout un autre caractère et c'est vraiment d'autres, d'autres couches de jeu. Enfin, on n'est pas dans le même profil de femme, pas du tout.
Lorsque tu étais interprète, Étienne, tu disais du spectacle qu'il était à la croisée du théâtre d'objets, du cirque miniature et du clown involontaire. Cette notion de clown involontaire m'intrigue puisque j'ai toujours l'impression que les clowns engendrent des réactions de l'audience malgré eux, donc toujours involontaire.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliciter un peu cette idée de clown involontaire ?
Le mot involontaire, il appuie le fait que le personnage, c'est sa nature propre qui est drôle et qui est risible, mais il cherche pas du tout à faire rire les gens. C'est les situations et son caractère qui fait que on se retrouve à rire de ce pauvre bonhomme là qui est engoncé complètement physiquement et dans sa tête. Donc c'est vraiment involontairement. Si lui avait la maîtrise du rire des gens, il détesterait absolument que les gens se moquent de lui.
Et vous dites que ce spectacle est muet, mais il parle quand même des petites obsessions de tous les jours, ces petites obsessions qui parfois deviennent maladives et qui, par excès de minutie, finissent par faire péter la cocotte. Et vous dites également que le personnage du spectacle nous convie à partager son intimité. Ça fait 10 ans qu'il tourne, le spectacle, et ces dernières années, on a vécu des confinements successifs. Est-ce que ces confinements-là ont influencé aussi la recréation, puisqu'on interroge l'intime?
Ça n'a pas du tout influencé pour le moment. Par contre, moi, je l'ai rejoué, le spectacle, depuis les premiers confinements. Je n'ai pas rejoué beaucoup, mais je l'ai rejoué un petit peu. Et c'est marrant parce que c'est vrai que le personnage, il est assis à une petite table basse et puis vraiment il s'occupe avec des choses anodines et qui n'ont pas vraiment d'intérêt, puis il choisit vraiment des chemins tellement détournés pour faire des choses simples. Et il y a des gens qui m'ont demandé si justement j'avais pas créé ce spectacle pendant le confinement, et c'est vrai que on pourrait vraiment vraiment penser que c'est pendant les longues journées à tourner en rond dans un appartement exigu que ça a été créé. Ça pourrait vraiment faire sens. Et puis, le personnage, il est quand même très maniaque et toqué. Et on a rajouté... moi, j'ai rajouté un petit flacon de gel hydroalcoolique. Une petite adaptation. Et c'est vrai que l'histoire avec ce flacon de gel hydroalcoolique, elle s'est écrite toute seule. En fait, l'objet aurait vraiment pu faire partie du casting des objets de départ, quoi. Donc, c'est assez drôle. Donc, ça n'a pas influencé dans la reprise, mais moi, en le rejoignant, ça a quand même... les choses ont quand même été un peu influencées, ouais. Surtout dans la lecture que les spectateurs et spectatrices en ont, en fait.
Est-ce qu'on peut dire que le spectacle vu est un miroir déformant de nos intimités ?
Moi, je dirais que oui, complètement. Ouais. Au niveau des manies et des choses qu'on peut faire par mimétisme, de ce qu'on a pu recevoir aussi de notre éducation, ouais, pour moi, c'est vraiment c'est un peu de la chirurgie psychologique par rapport aux obsessions du quotidien. Ouais.
En fait, c'est ça, je trouve, la force du spectacle, c'est que c'est... Ça nous fait rire et en même temps, on se rend bien compte qu'on est tous un peu prisonniers de tous ces petits gestes et toutes ces manies qui sont parfois futiles, mais pour nous tellement rassurantes.
Un spectacle qui s'intitule « Vu » ne pouvait pas se passer d'un œil extérieur. Quel a été le rôle de l'œil extérieur Sylvain Cousin sur le spectacle ?
Que ce soit « Vu » ou que ce soit un autre spectacle, c'est... Enfin, moi, je considère que c'est absolument essentiel qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui regardent le travail de l'extérieur pendant la création et sur le début de vie d'un spectacle, pour que quand on est au plateau, on n'a pas du tout la même temporalité ni la même manière de lire ce que peuvent lire les gens qui sont en face, le public. Donc, c'est important pendant la création d'avoir quelqu'un qui se met à la place du public qui verra la pièce ensuite. Donc Sylvain, il a vraiment fait il a fait écho aux propositions que moi je faisais au plateau en disant son avis, tout simplement, et en pointant du doigt les choses qui lui semblaient importantes, les choses qui lui semblaient intéressantes, les choses que lui, ça avait moins de sens. Donc voilà, on a fait une partie de ping-pong entre moi, ce que je ressentais à l'intérieur en jouant, et ce que lui voyait à l'extérieur en regardant. Et on a essayé d'accorder la partition.
Bah, merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Je suis retraité du métro. À la campagne, j'oublie ce sale boulot. J'ai un parc, une maisonnette, des petites fleurettes, des cyclamènes, des bégonias, des chrysanthèmes et pas de lilas. Et sous le beau ciel de France, je vois briller des objets de faïence. Car pour allonger la retraite, trop maigrelette, c'est moi qui suis le fossoyeur du cimetière de Passy-sur-Eure. Je fais des trous, je fais des trous, je fais des grands trous, des grands trous, des grands trous, toujours des grands trous, des trous de première classe, des trous de seconde classe. Je fais des trous, je fais des trous, je fais des grands trous, et je préfère les grands trous aux tout petits trous, 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 tout petits trous.
C'était Serge Gainsbourg et son morceau Le Fossoyeur de Passy-sur-Eure. Vous êtes toujours sur Syllab dans Tonnerre de Brecht, votre émission consacrée aux arts vivants.
Et on rappelle que ce spectacle peut être vu vendredi demain soir au théâtre Bazouge à Aider. Voilà.
À 20h30.
Au théâtre de Poche à Aider Bazouge, pardon. Et on enchaîne avec la deuxième partie de cette émission. On ressort des cartons une interview réalisée cet été.
Pendant les tombées de la nuit, certains et certaines d'entre vous ont peut-être assisté au spectacle Métagore majeur de la compagnie Canicule. Si, vous savez, ce spectacle qui met en scène deux duchesses sur un parking au beau milieu de la nuit. Deux duchesses qui écoutent Booba. Alors, la question se pose, peut-on, quand on est une femme et quand on est féministe, écouter Booba ? Voyons ce que Pauline Desmarais et Olivia Smets, les deux interprètes, peuvent nous en dire. Pauline Desmarais et Olivia Smets, vous êtes toutes les deux actrices sur Métagore majeur, de la compagnie Canicule dont vous faites partie. Et à Rennes ce week-end, pour les tombées de la nuit, on a pu assister deux fois au spectacle, pour le moment une seule. Vous êtes aussi porteuse de ce projet. Le départ de ce projet est Métagore, un spectacle pour trois spectateurs ou spectatrices en drive-in. Comment est-ce que vous êtes passée de l'un à l'autre ?
Donc en gros, cette forme pour trois spectateurs et spectatrices qu'on a créée il y a 4 ans, c'était en fait une commande d'un festival à la Cité Modèle à Bruxelles. Et donc on l'a créée en 3 semaines. Et très vite après, on a eu envie d'aller plus loin dans la matière. On sentait qu'on n'avait pas fait le tour et qu'on voulait aussi travailler une jauge avec une jauge plus importante. Et donc voilà, il y a eu tout un travail d'adaptation, mais qu'on a vite aussi, on s'est vite rendu compte que juste remettre le dispositif est si particulier dans la voiture, à l'intérieur de cette voiture, qu'en fait c'était compliqué de le rendre comme tel avec cette forme XXL qu'on appelle, cette forme majeure. Et donc on a réfléchi à comment, tout en gardant le public au centre de la création, essayer de reproduire ce que le public pouvait ressentir à l'intérieur de cette voiture, mais avec des outils autres. Et donc d'où est venue aussi par exemple la question du casque qui permettait en fait, c'était notre équivalent de carrosserie quoi. Donc dans la forme voiture, on a cette voiture qui enferme, qui kidnappe aussi, et on a essayé on trouvait que l'élément casque était intéressant pour reproduire cette sensation-là.
Métagore majeur parle de Booba, de ses punchlines sexistes notamment, d'un rapport aux femmes relativement dominateur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de Booba et pas d'un autre rappeur ?
C'est pas le seul, après c'est le plus emblématique et on a eu un peu un flash il y a quelques années sur sa musique mais aussi sur son personnage, sur ce qu'il représentait et donc c'était assez clair dès le début qu'il fallait que ce soit autour de lui quoi. Et puis clairement en écoutant cette musique il y avait la question de la violence de comment on parle des femmes de manière violente dans ces chansons et la question de savoir est-ce qu'on a le droit d'écouter cette musique et alors qu'elle nous violente et comment en fait on répond à ça et c'était le point de départ de notre questionnement quoi et en fait il y a à la fois énormément de... Enfin, Métagros Majeur, c'est un peu une déclaration d'amour à Booba parce que, en fait, il nous fait vibrer et puis il nous fait rire, il nous fait sortir de nous-mêmes et à la fois toujours un rapport ambigu à sa musique parce qu'elle véhicule des valeurs de domination et de violence avec lesquelles on peut être en désaccord à certains moments, même si on se rend compte que c'est aussi bénéfique en fait pour nous d'avoir ces sentiments forts qui nous traversent et que l'œuvre théâtrale qu'on crée permet de la traiter, cette violence, mais dans un cadre artistique, quoi.
Et par rapport quand même au choix de Booba, Booba c'est un peu le maître du rap. Enfin, il y a quand même il traverse des générations, il se renouvelle. C'est un personnage qui est en même temps violent, rebelle, révolté, mais aussi sulfureux, sexy, provocateur, dominateur, drôle, ironique. Enfin, en fait, il aussi dans une certaine autodérision par moment, et en même temps, c'est pas clair. En fait, c'était un personnage qui combinait beaucoup de... Je veux dire, on aurait pu, je sais pas, en fait, on aurait pu en choisir un autre, mais aussi, lui avait un peu toutes les qualités. Et puis, il n'y a rien à faire, c'était au niveau de son écriture et au niveau de sa poésie et au niveau de l'artiste qu'il est, il n'y a rien à faire. C'est quand même les meilleures chansons de rap, c'est Booba. Enfin, il y a un truc où il a une plume incroyable. Que même des Vald ou des Orelsan n'ont pas, en fait. Enfin, à travers ces générations aussi, ça fait 20 ans.
Et est-ce que... Parce qu'il me semble que Booba s'appelle le duc de Boulogne.
Mmh, ouais.
Ouais. Est-ce que du coup, ça justifie les duchesses?
Entre autres, oui. Après, duchesse, voilà, une des définitions de duchesse, c'est épouse du duc. Et puis là, l'idée, c'était aussi, par ses costumes, de aussi... pouvoir parler d'un magistral avec ses costumes. Ses costumes, en fait, prennent beaucoup de place. Ses costumes aussi enferment, d'une certaine manière, nos corps. Et en même temps, ils les rendent majestueux et puissants. Et en fait, on essayait aussi de pouvoir, par une stature et une silhouette, devenir puissante aussi, pouvoir prendre de la place, pouvoir être intouchable aussi. Parce que justement, d'être dans l'espace public, en fait, on se promène dans les rues et en fait, les gens viennent vers nous directement pour nous dire comme vous êtes belle, comme vous êtes... Et puis derrière, nous, on sait tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a derrière et qu'en fait, voilà, ce n'est qu'une parure. Et en même temps, c'était aussi hyper intéressant parce que donc, on a beaucoup travaillé de nuit et en fait, ces costumes nous protégeaient à tout moment. Enfin, en fait, c'est directement très, très clair qu'on est en train de jouer, qu'on est dans du théâtre, que c'est très noble. Donc, en fait, les gens ne viennent pas vers nous. On ne s'est jamais fait emmerder avec ces costumes. C'est impossible. Il ne peut rien nous arriver. C'est une armure.
Métagore, c'est un néologisme que l'on doit à Thomas Ravier pour décrire l'œuvre de Booba. Il s'agit d'une métaphore à l'image ultra-violente. On comprend tout de suite le lien avec Booba, du coup, dans le monde du spectacle. Mais en quoi est-ce que ce terme un peu antithétique représenterait le spectacle?
Mais une métagore, donc il y a forcément déjà c'est une figure de style, donc il y a ce rapport direct avec à la poésie et à l'idée que en fait c'est une image qui va rester dans la rétine du public, des spectateurs et des spectatrices, et donc il faut qu'elle soit forte, qu'elle soit percutante, qu'elle puisse faire mal. Qu'elle puisse, en un coup, c'est une vision d'horreur. Donc il y a aussi toute cette, il y a le mot gore, il y a toute cette question de la monstruosité aussi, où on est dans cette atmosphère de nuit, on est dans cette atmosphère d'ombre qui viennent par derrière, de feu qui brûle, on est quand même dans un rapport au danger et au sang. Il y a un truc très rouge sang, très, très gore. Et puis c'est aussi... comment j'imagine un peu les métagores aussi de Booba, c'est cette notion des sens, d'un dérèglement des sens où en fait c'est de la synesthésie, c'est en un coup le goût se mélange à un son, le son se mélange à une couleur, la couleur se mélange à... En fait on est au toucher, au goût du nougat dans la bouche, il y a un truc où en fait tous les sens sont déréglés, et où tu as un espèce d'artifice, de feu d'artifice de sens qui too much, en fait, enfin, est dans une hyper sensorielle, quoi, mais à l'extrême et trop. et où on sirote une bière en regardant un homme se faire violer. Enfin, il y a un truc où tout se superpose et c'est l'overdose aussi. Enfin, et c'est comme ça un peu que le spectacle a été construit, comme peut l'être une métagore où il y a trop d'infos et c'est écœurant, ouais.
Et justement, les spectateurs et les spectatrices, on est très stimulés pendant le spectacle. Donc on a un nougat au début, on a une phrase qu'on est potentiellement amené à lire. Certains spectateurs ou spectatrices ont comme indication de courir. On a une bière, on regarde avec des lunettes. Enfin, il y a quelque chose de très physique aussi, de très mobilisant et mobilisateur. On bouge, on se déplace. Pourquoi est-ce que vous avez voulu stimuler autant le spectateur? Qu'est-ce que ça apporte?
Ben, l'idée aussi du spectacle, c'était aussi de faire découvrir au public notre interprétation de l'œuvre de Booba et comment, en fait, ce que cette œuvre produit en nous. Et au début du spectacle, on raconte la première fois qu'on l'a vu en concert et le choc physique que ça a été, le besoin d'aller au premier rang pour le voir et presque le toucher. Et donc, ouais, y a vraiment cette idée-là de placer le spectateur au centre et de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour découvrir l'œuvre de cet artiste qu'a priori il pourrait détester, parce que voilà, c'est pas un artiste qu'on amène spontanément sur les scènes de théâtre. Il est pas mal décrié en fait au début, quand on disait qu'on faisait un projet sur Booba, un projet de théâtre, ça prêtait au rire. Et donc voilà, c'est vraiment de mettre le public en condition pour qu'il puisse se déplacer un peu son regard par rapport à Booba, et vraiment en fait être presque un peu perdu. Et ouais, l'idée, c'est un peu de le trimballer dans tous les sens et puis de le prendre par la main et puis de le lâcher, et puis vraiment pour en fait lui faire vivre ce que nous on vit quand on écoute cette musique, quoi, parce qu'elle est hyper puissante pour nous.
Ce que j'ai trouvé très drôle à la fin, c'est qu'on n'avait pas la même bande son. Mm-hmm. Et du coup, c'est très drôle parce qu'on se regardait agir. Moi, j'étais avec mon copain et il m'a dit « Mais pourquoi t'as couru? Mais pourquoi t'as sorti ton téléphone ?» Parce qu'il se rendait pas compte qu'on n'avait pas la même bande-son. Moi, ma bande-son me disait que j'avais pas la même bande-son, mais lui, il ne savait pas que certains n'avaient pas la même bande-son plus. Et du coup, le spectateur devient un peu le spectacle aussi. Pourquoi est-ce que vous avez aussi voulu apporter un peu cette « mise en abîme » entre guillemets? Mm-hmm. Vous êtes des spectatrices de Booba. Mm-hmm. Vous avez porté sur scène le sentiment que ça vous procurait. Mm-hmm. Et ensuite, on en vient à regarder au-delà de vous, des autres spectateurs.
C'était aussi la volonté d'immersion dans une violence, quoi. Donc en fait, cette violence, on nous la raconte, puis on nous la fait écouter poétiquement dans cette expression de la violence que propose Booba et que nous on réinterprète pour donner accès à cette expression de la violence qui souvent aussi est nommée comme inécoutable ou incompréhensible, ou on comprend pas ce qu'il dit, et donc on donne ça au public, et puis après on lui fait même goûter et on lui fait dire cette violence avec à lui, avec sa voix, avec et puis après on lui demande de s'immerger dans cette violence. Et possiblement aussi de regarder les autres répondre aussi à des injonctions qui sont données. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon casque, qu'est-ce qui m'est demandé de faire auditivement, comment j'y réponds, est-ce que je suis responsable de ça, est-ce que j'obéis, est-ce que je transgresse, est-ce que j'accepte ce qu'on me demande de faire, est-ce que là, en un coup, la foule dans tout ça a un sens très fort, où en fait, il y en a un qui commence, les autres suivent, et c'est aussi dans cette idée de ce que peut apporter un concert de Booba, où en fait, il y en a un qui commence à sauter, ben on commence tous à sauter, et en fait, il y a un peu une manipulation de la foule aussi, quand même assez grande. Et puis, dans cette idée d'immersion dans la violence et de... est-ce qu'à un moment je peux m'en dégager, et aussi est-ce qu'à un moment je peux être excitée et en fait kiffer, enfin, et vraiment en fait tout ça n'est qu'un jeu, tout ça n'est que représentation, tout ça n'est que théâtre, tout ça n'est que fiction, tout ça n'est que musique, tout ça n'est que poésie. Ça peut aussi être excitant, tout ça peut être excitant et tout ça peut être prenant, et du moment que ça reste c'est un jeu en fait, c'est et on a le droit de kiffer ce jeu-là aussi.
Comment est-ce que vous avez réussi à doser entre le trash, le violent et le doux? Enfin, à un moment, on regarde avec les lunettes, on voit des cœurs. Et à côté de ça, on vient de balancer des punchlines qui sont hyper violentes. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver le juste milieu, en fait?
Bah, en tout cas, c'était un peu tout le travail, c'est d'amener plein de points de vue différents autour de l'œuvre de Booba, qui en fait est hyper kaléidoscopique et multiple, et que le public les expérimente. Et donc oui, c'était une question de dosage, mais en tout cas, il y avait le désir de pas être dans une seule ligne et un seul discours par rapport à cette œuvre et à ce que nous... Parce qu'en fait, nous, notre interprétation de l'œuvre, elle est aussi elle changeante. Il y a des fois où on n'en peut plus l'écouter, il y a des fois où on en a besoin. Enfin, donc, c'était vraiment l'idée de ne pas être univoque par rapport à ça et de toujours un peu décaler les choses, quoi. Par exemple, voilà, quand on est en off dans la voiture et qu'on raconte des histoires de maltraitance et un peu de zone grise, ben, y a une musique... Une musique R&B un peu cool derrière, et le public regarde ça avec des cœurs dans les yeux. Donc c'est toujours en fait l'idée de décaler un peu et de regarder autrement, quoi. Donc
puis c'était quand même assez important de trouver notre univers à côté de celui de Booba. Enfin, l'idée n'était pas du tout de reprendre tous les codes, tout l'univers de Booba. C'est pas vraiment ça qui nous intéressait, d'où aussi je pense les duchesses apportent le côté drôle et en même temps ce côté c'est notre outil du théâtre. Enfin, il y a un truc très classique, très comment on ne remettait pas tel quel des univers de Booba, mais comment on trouvait le nôtre. Et donc il y a ce rapport plus déjà féminin, en fait. Enfin, en fait, c'est un regard féminin sur une œuvre. C'est pas tout part de là, quoi, de nous en tant que femmes, par rapport à cette musique, par rapport à cette poésie, par rapport à nos histoires intimes. Et donc forcément, on s'éloignait de l'univers de Booba. Et puis, avec un côté, en même temps lynchéen, en même temps sorcière, en même temps monstrueux, en même temps gore, en même temps des inversions de codes où on s'empare en un coup des codes masculins et on les remet paf tels quels, juste avec des corps de femmes qui les reprennent. Il y a un côté R&B, un côté lumineux aussi, drôle.
Et puis le rapport à l'intime aussi entre deux copines qui discutent entre elles, et le côté un peu teen movie aussi qu'on a un peu travaillé.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs types d'écriture, une écriture plus dramaturgique, une écriture spatiale, parce qu'on est amené à se déplacer. Et une écriture sonore. Comment est-ce que Noé Voisard, qui est du coup le concepteur sonore, est-il intervenu, et quand est-ce qu'il est intervenu par rapport au reste?
Ben, il était là dès le début, en fait.
Ouais.
Il nous a vraiment accompagnés sur toute la création, très rapidement. On s'est dit qu'on allait avoir besoin de lui tout le temps, parce que le son est vraiment en fait un acteur du spectacle à part entière, quoi. Donc... c'était hyper important pour nous. Même il y avait ce dispositif technique en fait à gérer. Enfin, il y avait vraiment besoin de quelqu'un qui soit à la fois calé techniquement et aussi en création sonore, qui puisse faire des propositions artistiques qu'on pouvait insérer dans les répétitions et qu'on pouvait remodeler quasi en direct, quoi. Donc il était là dès le début. Et oui, c'est comme ça qu'on fonctionnait. C'est aussi on lui faisait des demandes, par exemple pour il y a une séquence qu'on appelle nous gore, où en fait on arrive à un concert de Booba et en fait on lui donnait des thématiques, on lui disait on a envie d'avoir ça, des bruits de concert, d'avoir la voix de Booba, et puis que ce soit un peu gore justement. Et puis voilà, il revenait avec une proposition de bande sonore qu'on réadaptait en permanence. Le travail s'est fait vraiment jusqu'au bout, dans une collaboration hyper étroite, quoi.
Je veux.
Merci à Pauline Desmarais et Olivia Smets de la compagnie Canicule d'avoir répondu à mes questions. On a hésité à vous passer du Booba, ça aurait été approprié. Puis on s'est dit que ce serait encore plus marrant de vous passer cette chanson de Yel. Et pourquoi, Martin ?
Eh bien, tout simplement parce que cette chanson est une réponse bien placée au morceau de Girlfriend de TTC, bien assez sexiste comme la plupart des chansons de Booba, en fait. Voilà.
Oui, exactement. Bon, on se couchera tous et toutes moins bêtes ce soir grâce à toi. Et ça tombe bien car c'est déjà la fin de cette émission.
Bon, faut dire qu'on a bien bossé ces dernières semaines et à défaut de prendre des vacances, on vous fait une émission plus courte mais non moins intense.
Merci à Adèle d'avoir assuré la technique de cette émission.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales.
D'ici là, prenez soin de vous et des bisous.
Je fais du théâtre.
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Attends. Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabe.
Ici Radio Honolulu, les plus belles musiques de la plus belle des îles du Pacifique.
Syllabe.
Ah oui, c'est étonnant.
La radio sauvage.
C'est cocker.